Tous ici, nous voudrions sans doute un monde de paix. Il se trouve que le monde est dans l'état où il est.
Je ne joue pas sur les mots, je dis quelque chose de très précis.
Les choses ne vont pas se faire comme ça.
On vous licencie pour quelques années, puis vous reviendrez plus tard.
Chaque Français vit à moins de 300 km d'une centrale nucléaire.
Nos salaires ont baissé d'environ 25%.
Score maximum. Ça, c'est bon.
Chaque jeudi, à midi, retrouvez la rédaction de l'hebdomadaire Politis pour une chronique indépendante et engagée sur l'actualité politique et sociale.
Bonjour Patrick Pirot.
Oui, bonjour.
Alors vous avez fait dans l'hebdomadaire Politis de cette semaine un article intitulé « La fin de l'illusion Hulot ». Vous partez du renoncement de Hulot annoncé le 7 novembre dernier sur le recul de la part de production d'énergie nucléaire en France. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quels étaient les engagements initiaux du gouvernement Macron sur ce sujet et où se situe le renoncement aujourd'hui ?
Alors, Emmanuel Macron avait repris les termes de la loi de transition énergétique qui prévoit au chapitre du nucléaire la réduction de la part du nucléaire dans notre production nationale d'électricité qui est aujourd'hui de 75% et il s'agissait de la prévoir sa baisse de jusqu'au niveau de 50% à l'horizon 2025. Donc c'est un engagement qu'il avait repris pendant sa campagne. Et voilà-t-il pas que la semaine dernière, on entend Nicolas Hulot nous annoncer à la sortie du Conseil des ministres que cet engagement ne pourrait pas être tenu, en tout cas pour la date de 2025, parce que c'était irréalisable. Ça nous obligerait, nous, pays France, à remettre en service des centrales à charbon. Et donc que tout cela allait à l'encontre des engagements de lutte contre le dérèglement climatique.
Ce sont des arguments qui peuvent s'entendre ?
Alors, ce sont des arguments qui peuvent s'entendre si l'on est pro-nucléaire et si l'on est si l'on choisit soigneusement ces arguments pour arriver à ce résultat. Alors, d'un point de vue politique et d'un point de vue tout simplement de la position de garant des lois qui ont été votées, c'est bien sûr pas entendable puisque cet objectif-là, il est inscrit dans la loi. Donc de l'annoncer comme ça, la bouche en cœur, sans aucune autre proposition derrière, aucune autre date, aucun plan B, brutalement, c'est évidemment sur le fond et sur la forme difficilement entendable. Par ailleurs, si l'on examine les arguments qui ont été présentés par Nicolas Hulot, Nicolas Hulot qui est devenu anti-nucléaire après Fukushima, hein, précisons-le, c'est pas comme d'autres ministres de l'écologie ou pratiquement tous, on peut dire même tous, hein, d'ailleurs, depuis la création du ministère de l'écologie en France, les ministres de l'écologie étaient des pro-nucléaires, hein, il faut le savoir. Parce qu'en France, le nucléaire est considéré dans les hautes sphères comme sûr.
Et on comme sait, une énergie propre.
Comme une énergie propre et qu'on va régler les questions de déchets, vous inquiétez pas, et n'émet pas de CO2, ou très peu. Alors, Nicolas Hulot s'exprimait à la suite d'un rapport qui sort tous les ans de réseau de transport de l'électricité, RTE, les gens qui s'occupent des lignes haute tension qui traversent la France, et qui est une filiale à 50,1% de EDF.
Détenue majoritairement par l'État, rappelons-le.
EDF détenue à plus de 85% par l'État, donc c'est a priori l'État qui pourrait être supposé dans n'importe quelle entreprise privée, ferait la pluie et le beau temps, nommerait ou démettrait comme il voudrait les hauts dirigeants, évidemment. Mais on n'en est pas là, et ça on le sait. Alors, ce rapport de RTE, annuel, qui sort annuellement, il fait Il évalue comment on couvre la demande par l'offre de production électrique, elle s'occupe de l'équilibre de tout ça, c'est évidemment salutaire, et tous les 5 ans, il fait une prospective à l'horizon d'une quinzaine d'années devant pour savoir comment ça va se passer. Alors, c'est la première de ces prospectives qui arrive sous le gouvernement de Macron-Philippe et elle se place à 2035. Donc il y a 4 scénarios qui sont à 2035 et ces scénarios sont pas si mauvais que ça du point de vue des écologistes parce que ils intègrent une part plus ou moins importante, selon les arguments, enfin les hypothèses prises par les scénarios, une décroissance plus ou moins importante du nucléaire. Il y en a même un qui, à 2035, fait passer le pays à 70% d'énergie renouvelable. Et puis, se balade au milieu de tout ça, un scénario qui a été profilé pour 2025. Pourquoi 2025 ? Parce qu'on s'adresse directement à l'objectif de la loi de transition énergétique. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que dans ce scénario, c'est pas du tout les mêmes hypothèses. On prévoit bien moins de réduction ou pas du tout de réduction de la consommation d'électricité, qui est pourtant une tendance historique constatée depuis des années, parce qu'on fait des efforts sur la consommation, sur l'efficacité énergétique des appareils. Et puis, on ne réduit pas beaucoup le niveau d'exportation d'électricité. Il faut savoir que la France exporte de l'électricité, ce qui lui permet de justifier a posteriori l'importance de son parc nucléaire, etc., etc., etc. Donc en choisissant soigneusement les hypothèses, on arrive à ce résultat-là qu'endosse Nicolas Hulot de dire, eh bien voilà, si en 2025 on veut fermer plusieurs dizaines de réacteurs pour arriver à 50% de la part d'électricité, de la part du nucléaire dans la production d'électricité, on ne peut pas le faire si on ne réactive pas des centrales à charbon, à gaz, etc. Et donc, voilà, madame, pourquoi votre fille est malade. La démonstration est faite parce qu'on a choisi les hypothèses pour y parvenir. Et donc, ce scénario-là apparaît comme un pur scénario de commande politique, tellement il se distingue de l'exercice l'exercice rituel réalisé par RTE, qui, pour le coup, apparaît beaucoup plus vertueux que ce qui a été retranscrit dans la parole, dans la bouche de M. Hulot. Voilà, ça fait quand même extrêmement lourd pour un ministre écolo et par ailleurs convaincu qu'il faut sortir du nucléaire. Tout ça nous démontre à l'envi que Nicolas Hulot a été manipulé, très certainement, pour pouvoir annoncer ce résultat-là.
Alors juste pour préciser quand même sur ce scénario de RTE, d'abord c'est un peu ambigu de demander au gestionnaire de cette filière de produire lui-même des choses qui vont impacter, des rapports qui vont impacter son activité. Et ensuite il existe d'autres scénarios qui sont beaucoup plus en faveur de la réduction du nucléaire et de l'essor des énergies renouvelables et qui sont jugés comme très fiables, ceux de mégawatts qui ont été validés par l'ADEME.
Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que le raisonnement que je vous présente et cette tentative de démonstration, elle prend pour appui, je dirais, des hypothèses très conservatrices, parce que je parle de RTE, parce qu'évidemment, on ne pourra pas nous dire que vous voyez bien, vous choisissez soigneusement vos hypothèses. Mais si l'on va du côté de l'expertise indépendante, l'expertise des experts énergétiques de Mégawatt, qui ont fait un travail vraiment exceptionnel sur un scénario qui ne prend pas en compte que l'électricité, mais l'ensemble des énergies, et qui trace une trajectoire. Donc c'est la dernière version est sortie en 2013, hein, une trajectoire qui nous mène à 2050, où l'on n'émet plus que très peu de CO2. On a stabilisé les valeurs du dérèglement climatique, en tout cas pour ce qui concerne la tâche qui incombe à la France, etc., etc. Alors on peut dire, ben voilà, vos experts indépendants, ils tracent une trajectoire volontariste et difficile, pas facile, mais pas du tout irréalisable, avec aussi des hypothèses extrêmement robustes, c'est-à-dire on n'invente pas une technologie à naître dans 10 ans, pas du tout, c'est avec des outils qui sont disponibles aujourd'hui. Et par ailleurs, qu'elle ne fut pas la surprise l'an dernier de constater que l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, qui n'est pas réputé être à la solde des écologistes du tout. Donc c'est une officine paragouvernementale, hein, précisons-le, et sorti un scénario où ils examinent l'hypothèse 100% d'électricité, hein, pas d'énergie au total, mais d'électricité renouvelable. Et évidemment, quand bien même c'est le périmètre de l'électricité qui est exploré par ce scénario-là, il s'adresse directement au nucléaire. Dès qu'on touche à l'électricité en France, c'est comme si on tutoie le nucléaire. Et ce rapport a été camouflé, puis il a bien dû sortir parce qu'il y a eu des fuites, et il montre à l'évidence que la barrière, la muraille mentale qui perdure depuis les années 70 en France sur le nucléaire comme dogme d'État est en train de se fissurer très sérieusement. Alors, on a une vérification de tout ce qu'on a écrit dans le journal cette semaine, parce que tout simplement l'hypothèse que nous faisions, c'est que Nicolas Hulot avait été pris en otage. On avait mis tenir ce discours-là devant les caméras, ce qu'il a fait, mais que ce discours-là servait d'autres ambitions, les ambitions d'Emmanuel Macron, se présenter comme un chantre de la bataille climatique, non seulement un chantre de la bataille climatique, mais aussi un critique de la voie qui a été prise par le voisin allemand. Je rappelle ce qui a été fait en Allemagne. En Allemagne, il y a une loi de transition énergétique également, mais qui s'appuie sur deux grands objectifs. Le premier, c'est de régler le sort du CO2, bien sûr, puisque c'est le climat. Et la deuxième, la deuxième grande voie, c'est la sortie du nucléaire, parce que après Fukushima, l'Allemagne, qui est un pays qui est extrêmement sensible beaucoup plus sensible que la France, en tout cas sur les questions écologiques et notamment sur le nucléaire, a décidé en 2011, quelques mois, même semaine après l'accident de la catastrophe de Fukushima, de planifier la sortie du nucléaire, ce qui avait déjà été lancé auparavant, mais qui était en train un petit peu de s'asseyer.
À l'horizon 2025.
2022, tous les réacteurs devraient être fermés en 2022 en Allemagne.
Évidemment, sauf que l'argument, c'est de dire que ça, on relance les centrales à charbon et donc la production de CO2 pour sortir du nucléaire. Argument qui sert, en fait, finalement, on exploite l'argument climatique pour défendre le nucléaire.
Voilà, c'est ça.
Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que ça, cette position se défend pour vous, brièvement?
Alors, en visant l'Allemagne, ce que Macron a explicitement dit le 15 novembre là, en conclusion de la COP23, ça s'adressait directement à l'Allemagne. C'était pour dire, mais voyez, l'Allemagne a du mal avec son CO2, notamment à cause des voitures, à cause de bien d'autres choses. Regardez, notre chemin à nous est plus vertueux en France. En France, qui n'avait absolument pas que l'on puisse dire, mais regardez, l'Allemagne s'en sort pour les gaz à effet de serre, pour le climat, et s'en sort aussi du point de vue du nucléaire. C'est ça le péril allemand, entre guillemets, pour la France. Et on comprend mieux pourquoi Nicolas Hulot a été mis dans cette position extrêmement délicate et qui, je pense, a fortement violé sa conscience. Alors,
on est toujours vraiment, le but sous-jacent de toutes ces manœuvres gouvernementales, c'est encore et toujours défendre l'industrie du nucléaire. C'est le poids industriel, économique.
Oui. EDF est un État dans l'État. Quand on a une filière technologique unique qui est le nucléaire, qui couvre 75% de notre production, qui est présentée comme une réussite industrielle et technologique française, que l'on rêve encore d'exporter et d'exporter dans le monde, il y a clairement une défense d'un pôle industriel national qui ne rend pas les armes, en dépit d'une tendance internationale qui est extrêmement atone. On ne commande pratiquement plus de centrales nucléaires. Il y a peut-être un petit peu en Chine, mais si on regarde la Chine avec une lunette un tout petit peu plus élargie, on voit que les Chinois investissent beaucoup plus dans l'éolien et dans le photovoltaïque. La Chine est extrêmement volontariste sur ce plan-là. En 2015, en 2016 également, il s'est investi dans le monde bien plus d'argent dans le développement des énergies renouvelables que dans le développement des énergies fossiles et même nucléaires également. Donc la vraie tendance aujourd'hui dans le monde, c'est le développement des énergies renouvelables. Et la France est un petit peu sur une ligne de crête à ce niveau-là, parce que qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un énorme plan industriel dans la deuxième partie des années 70 pour développer le parc nucléaire que nous connaissons aujourd'hui. Et on a construit à un rythme absolument effréné des centrales nucléaires. C'est une aventure industrielle unique au monde, un tel rythme. Et qu'est-ce qui se passe ? Ces centrales, le gros de ce parc nucléaire arrive à sa limite d'obsolescence, qui était d'abord, on avait dit 30 ans, mais comme on ne savait pas, on a dit, on va voir.
Là, on va aller jusqu'à 40 ans.
On va aller jusqu'à 40.
Donc en fait, ce qui se joue derrière ça aussi, c'est la question de la fermeture des centrales et de l'engagement sur la fermeture des centrales. Le gouvernement ne veut pas monter au front. C'est-à-dire que quand bien même il sait que c'est inévitable, etc., il attend, il préfère repasser le bébé au prochain gouvernement.
Oui, parce qu'on n'est pas du tout dans la même situation qu'en Allemagne. En Allemagne, le nucléaire devait représenter en gros 25% de la production d'électricité et les centrales n'ont pas toutes été construites au même moment, grosso modo. Donc on peut le faire petit à petit. Là, en France, qu'est-ce qui se passe ? Les techniciens appellent ça la falaise du nucléaire. C'est-à-dire que le gros des centrales nucléaires ayant été construit en très peu de temps, eh bien le gros des centrales nucléaires arrive à son obsolescence, à son vieillissement final, en même temps aussi, donc on a une falaise, c'est-à-dire qu'il faut, ça se présente, ça coûte ces 100 milliards d'euros qui sont dans la balance, c'est 60 milliards d'euros pour mettre à niveau le parc nucléaire, et on ne sait pas du tout si ça suffira, on n'a jamais rafistolé.
Soit pour le démantèlement
Soit pour le démantèlement et l'investissement dans des filières du style énergie renouvelable. Les calculs correspondent à peu près, ce qui est assez intéressant, c'est en gros, vous avez 100 milliards, qu'est-ce que vous en faites ? Vous prolongez le nucléaire ou vous passez à autre chose ? Alors EDF veut prolonger le nucléaire, pourquoi ? Parce que les centrales qui ont été construites plus...
Elles deviennent rentables, plus elles tournent dans le temps, plus elles sont rentables. Je suis désolée.
Elles sont amorties.
Et plus elles sont amorties. Patrick Pirot, le temps file, on va devoir se laisser. Juste deux questions, je vous demanderai d'être très bref, s'il vous plaît, dans vos réponses. Quelle responsabilité personnelle de Hulot dans ce recul ? Vous disiez tout à l'heure qu'il était sous pression. C'est uniquement, pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas dans un rapport de force ?
Je pense qu'il a été piégé, je pense que c'est sa conscience qui va parler. Il rentre pas dans un rapport de force parce que je pense que c'est sa psychologie à lui. Il tente une méthode, je dirais, un peu plus douce, qui consiste pas à faire des coups et à mettre sa balance, sa démission dans la balance au premier coup de chaud. Enfin, c'est un énorme coup de chaud quand même. Moi, j'attends ce qui va se passer pour Notre-Dame-des-Landes.
Arbitrage en décembre.
Arbitrage en décembre. S'il opère là-dessus, à mon avis, Hulot se part du gouvernement. Je vois pas comment il pourrait faire autrement. Donc, la psychologie d'Hulot, pour l'instant, lui tend un piège. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'il pourrait s'appuyer sur la grande notoriété qu'il a dans l'opinion publique.
Et qu'il mette sa démission dans la balance.
Voilà, jouer des muscles. Mais
donc, vous l'attendez sur Notre-Dame-des-Landes.
Oui, on l'attend sur Notre-Dame-des-Landes. Pour moi, je ne vois pas comment il pourrait échapper à la déchéance de son image et même de sa propre conscience s'il était battu là-dessus.
On suivra bien entendu de très près cet arbitrage gouvernemental ici, puisque on est largement concerné. Merci Patrick Pirot d'être intervenu sur notre antenne. Je rappelle le titre de votre article paru dans l'hebdomadaire Politis, La fin de l'illusion Hulot, accompagné d'autres papiers liés à l'actualité climatique, écologique. C'est dans l'excellent hebdomadaire Politis, à retrouver en kiosque. À bientôt Patrick. Merci.
À bientôt et merci à JetFM pour la fidélité de son compagnonnage avec Politis.
C'est parce qu'on y trouve toujours une belle matière. Au revoir.